Delhi, Magali. Chapitre 1. Bien que son front ne brillât que de jeunesse, bien qu'elle n'eût ni diadème d'or ni manteau de Damas, je veux qu'en gloire elle soit élevée comme une reine. Frédéric Mistral, Mireille. L'aube paraissait un peu brouillée, une lueur incertaine flottait sur la campagne à travers laquelle le train filait en jetant des coups de sifflet stridents. Dans le wagon bien chauffé, cependant, une fraîcheur pénétrait qui refroidissait la voyageuse malgré le vêtement fourré dont elle était couverte. Peu à peu, Mademoiselle Noué sortait de la somnolence qui l'avait envahie depuis quelques heures. Ses yeux s'ouvrirent, sa main, par un geste machinal de femme soigneuse, lissa les bandeaux châtains qui encadraient son visage mince, un peu flétri. Elle se redressa enfin, complètement éveillée, secoua son vêtement où s'étaient formés quelques plis. En même temps, son regard se dirigeait vers l'autre extrémité du wagon. Là se trouvait une dame enveloppée d'une mante noire de piètre apparence et deux enfants de 8 à 10 ans. En montant dans ce compartiment au milieu de la nuit, Mademoiselle Noué les avait trouvés là. Et la dame avait conservé exactement la même position qu'elle lui avait vue alors, la tête tournée vers la vitre et cachée entre les mains, sans un mouvement autre que celui imprimé par le train. En face d'elle, les enfants étaient immobiles, serrés l'un contre l'autre, très éveillés, eux, et visiblement grelottant sous leurs vêtements râpés. Ils étaient tous deux minces et frêles, mais ne se ressemblaient pas. La petite fille, qui semblait l'aînée, avait un visage au teint mat, aux traits un peu forts, et une superbe chevelure blond cendré tombant en deux longues nattes sur ses épaules. La physionomie du petit garçon était fine, plus délicate, son teint ressortait très blanc, près des boucles brunes qui ombrageaient son front. Le regard compatissant de Mademoiselle Noué avait eu vite fait d'embrasser tous ces détails. Elle était accoutumée à coudoyer bien des misères cachées dans ses visites à travers Paris et Londres. Elle avait un flair quasi infaillible pour discerner les pauvres honteux. Et quelque chose s'éveillait dans son cœur devant ce trio inconnu, devant la gravité mélancolique empreinte sur ses pâles visages d'enfant dont l'extrême distinction l'avait aussitôt frappée. La portière fut tout à coup ouverte, un contrôleur parut sur le seuil. « Vos billets, s'il vous plaît !» Mademoiselle Noué tendit le sien. Les enfants tournèrent la tête, mais la dame ne bougea pas. « Vos billets, madame !» dit l'homme en haussant la voix. Pas de réponse. « Elle dort bien, cette dame » observa-t-il. « Vous ne savez pas où sont ces billets, les enfants ?»« Si, je le sais !» dit la petite fille avec un léger accent anglais. « Ne réveillez pas maman !» Elle se leva, prit un sac posé près de sa mère et en sortit 3 billets. « Ce sont des billets de 3e et vous êtes en première ici. Eh bien, vous ne vous gênez pas. »«
Nous sommes en première, » dit la petite fille en le regardant avec surprise. « Nous ne savions pas. Maman était si fatiguée qu'elle est montée dans le premier wagon venu. »
« Oui, racontez-moi des histoires. Si vous croyez que ça va prendre, il faut payer le supplément ou sans cela... » Un geste significatif acheva la phrase. La petite fille eut une exclamation d'effroi.
« Payer le supplément, mais nous n'avons presque plus d'argent. »
« Ça ne me regarde pas. Il fallait faire attention. Allons réveiller votre maman. Allons réveiller votre maman. Je ne peux pas poser 2 heures ici. »
Une expression de regret passa sur la physionomie de l'enfant, ses yeux, de magnifiques prunelles sombres et veloutées, enveloppèrent d'un tendre regard sa mère toujours immobile. Puis, se penchant, elle appela doucement en anglais
« Mama ! Mama ! »
La dame n'eut pas un mouvement. La petite fille leva vers le contrôleur un regard suppliant.
« Je ne peux pas la réveiller, elle dort si bien !»
« Ah, mais en voilà assez. C'est moi qui vais m'en charger, alors. »
Mademoiselle Noué se levait pour mettre fin à cette scène pénible en payant le supplément demandé. Mais le train, passant probablement sur un point de la voie en réparation, eut une violente secousse qui la rejeta à sa place. Et là-bas, l'inconnu, ballotté,
tomba en avant comme une masse. Les enfants eurent un cri d'effroi auquel répondirent une exclamation de Mademoiselle Noué et cet ordre du contrôleur. « Mais cette dame est morte !» La petite fille se dressa debout, ses yeux dilatés enveloppèrent le visage tout blanc qui avait heurté la banquette, ses mains l'effleurèrent. Et, doucement, elle glissa évanouie dans les bras que lui tendait Mademoiselle Noué. « Eh bien, en voilà une histoire !» murmura le contrôleur. « Heureusement encore que nous arriverons bientôt !» Mademoiselle Noué emporta l'enfant à l'autre extrémité du compartiment. Elle fit de même pour le petit garçon qui demeurait immobile, tremblant de tous ses membres. Puis elle revint s'assurer que le contrôleur avait dit vrai. Hélas, on en pouvait douter. Une mort subite avait frappé cette femme, peut-être avant l'entrée de Mademoiselle Noué dans le wagon. « Pauvre créature » murmura-t-elle en regardant avec une douloureuse compassion ce visage délicat, jeune encore, mais extrêmement flétri, cette chevelure brune, déjà semée de fils d'argent, et les petites mains fort jolies de forme, mais brunies par des travaux de ménage. Paris approchait, 5 minutes encore. Et, avec un soupir de soulagement, Mademoiselle Noué vit le train entrer en gare. Le contrôleur s'éloigna pour chercher de l'aide. Quelques instants plus tard, l'étrangère était emportée par 2 hommes, tandis qu'un autre enlevait dans ses bras l'enfant toujours évanoui. Mademoiselle Noué suivit celui-ci, tenant par la main le petit garçon, auquel elle murmurait de douces paroles. Ce fut elle qui réussit, après bien des soins, à faire revenir la petite fille de son évanouissement. Elle redoutait beaucoup cet instant. Et, de fait, l'enfant, en se rappelant soudain ce qui s'était passé, eut une terrible crise de désespoir que Mademoiselle Noué ne put calmer qu'après de longs efforts. Mais il était navrant de voir cette petite figure désolée, d'entendre les sanglots du petit garçon agenouillé près de sa sœur.
« Maman, maman !»
murmurait celle-ci en se tordant les mains.
« Ce n'est pas possible, madame, elle vit, n'est-ce pas ?»
« Ma pauvre chérie !» disait tendrement Mademoiselle Noué en la pressant dans ses bras. Et, apercevant une petite croix d'ivoire qui sortait du corsage de l'enfant, elle ajouta « Vous êtes catholique, n'est-ce pas? Moi aussi, c'est un lien plus fort entre nous. Ma chère enfant, eh bien, pensez que votre pauvre maman est près du bon Dieu, qu'elle ne souffre plus maintenant, ma mignonne. »
« C'est vrai !» « Oh, elle souffrait tant, ma mère chérie! Mais nous ne l'avons plus! Nous sommes seuls, seuls! Oh, maman, maman !»
Elle eut une nouvelle crise de larmes que Mademoiselle Noué eut beaucoup de peine à calmer. L'enfant demeura ensuite immobile, absolument abattu et brisé.
« Magali, Magali, ne va pas mourir aussi !»
sanglotait son frère en lui serrant la main.
« Non, mon Freddy !» murmura-t-elle faiblement. « Mais, après tout, cela vaudrait mieux. Qu'est-ce que nous ferons sans maman ?»
Le chef de gare et le commissaire de police entraient en ce moment. Ils venaient chercher quelques renseignements près des enfants, le mince bagage de la défunte ne leur ayant fourni aucune indication. Sur l'alliance seulement étaient gravés ces 2 noms, Ethel, Luc, 1880. « Comment vous appelez-vous, mes chers petits ?» demanda Mademoiselle Noué en se penchant vers les orphelins.
« Magali et Freddy Dolté !» murmura la petite fille.
« Et d'où venez-vous ? »
« De Bombay. »
« Vous aviez des parents, là-bas ? »
« Non, personne. Maman donnait des leçons de français et d'anglais. »
« Vous n'avez plus votre père ?»
« Non, il est mort, voilà 3 ans. »
« Avez-vous des parents en France ?»
Personne non plus, mais maman ne trouvait plus assez de leçons là-bas et le climat la fatiguait beaucoup. Elle voulait essayer en France ou en Angleterre.
Était-elle anglaise ?
Oui, et papa français de la Provence.
Comment s'appelait-elle ?
Ethel Dolté.
Oui, mais de son nom à elle.
Je ne sais pas, madame.
Et vous ne connaissez aucun parent, ni en France ni ailleurs ? La petite fille secoua négativement la tête. Diantre, c'est ennuyeux cela,
murmura le commissaire de police. « Qu'allons-nous faire de ces mioches ? C'est dommage, ils sont gentils. »«
Je m'en charge pour le moment, » déclara Mademoiselle Noué. « Je ferai toutes les démarches pour savoir s'ils n'ont réellement personne au monde. »
Quant à la pauvre mère, ajouta-t-elle plus bas en s'adressant au commissaire de police, « veuillez lui faire faire des funérailles religieuses convenables. Je prends à ma charge tous les frais. »
Il s'inclina et sortit de sa poche un calepin.
« Ayez la bonté de me donner votre adresse, madame. »
Mademoiselle Noué, hôtel du Volberg, rue de la Ville-l'Évêque. « Je suis la lectrice de la duchesse de Staldiff, en ce moment de passage chez le comte de Volberg, son cousin, » ajouta-t-elle en manière de référence.
« Très bien, mademoiselle, j'enverrai prendre vos ordres pour l'enterrement. Dois-je faire avancer une voiture ?»
Sur la réponse affirmative de mademoiselle Noué, il s'éloigna aussitôt et, un peu après, un fiacre s'en allait de la ville, emportant l'excellente demoiselle et ses petits protégés blottis contre elle.